Tout d'abord, merci aux organisateurs, au Père Pierre et au Père Étienne de m'avoir proposé cette intervention, en sachant que dans la salle, il y a des personnes plus compétentes que moi pour parler de ces sujets. Je ne suis pas spécialiste de ces sujets, mais c'est certain que ça m'intéresse depuis très longtemps. Donc, ce que nous allons aborder et pendant ces jours, comme a dit le Père Pierre, c'est la question de l'intériorité. Et je veux aborder les contextes historiques dans lesquels la quête d'intériorité de Thérèse se déroule. Et cette approche historique, qui peut être parfois un peu lourde, je ne voudrais pas vous fatiguer trop avec des données, avec des dates, avec des noms. Et en même temps, beaucoup de spécialistes actuellement affirment que pour entrer dans la pensée de Thérèse et connaître vraiment son spiritualité, il faut tenir compte du contexte historique auquel elle s'est adressée. Donc, pour faire cela, je vais le faire en deux temps. Et d'abord, un survol sur le XVIe siècle, en trois temps plutôt, et un survol sur le XVIe siècle. Ensuite, très brièvement, trois états fondamentaux d'Espagne dans ce siècle. Et ensuite, c'est là où je parlerai un peu plus longtemps, sur les courants et spirituels qui ont pu influencer Thérèse ou duquel elle s'est détachée ou qu'elle a corrigé. Voilà. Donc, voilà, tout d'abord ce survol. Et il faut parler tout d'abord de l'Europe, de ces tournants, de ces passages entre le Moyen-Âge, du Moyen-Âge à la Renaissance. Le XVIe siècle est le témoin d'un grand nombre de bouleversements dans tous les domaines, géographiques, scientifiques, spirituels et idéologiques. Une des raisons de ces tournants est la découverte de l'Amérique en 1492, qui élargit les horizons connus jusqu'alors. Cela implique des changements non seulement dans les cartes géographiques, mais aussi dans les droits, dans l'économie, dans l'histoire des mentalités. La Terre n'est plus le centre de l'univers. Et un nouveau continent défie le christianisme dans sa prétention d'universalité. Ce siècle, d'autre part, est le témoin de la déchirure spirituelle de l'Europe avec l'avènement du luthéranisme qui suscitera des réponses multiples. Et ce siècle est enfin celui qui voit l'idéal de la Renaissance s'introduire presque partout. Une nouvelle vision de l'homme surgit et avec elle de la société tout entière, qui laisse derrière la conception de l'homme du Moyen-Âge. Cette nouvelle vision anthropologique se caractérise fondamentalement par la revendication de la liberté et de l'autonomie de l'individu, par l'essence critique, par une nouvelle conception de la science où l'expérience acquiert une importance majeure, par une nouvelle conception des rapports entre la foi et la raison, ce qui a des conséquences pour la conception de la théologie. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus pendant ces jours, par un intérêt croissant envers la quête d'intériorité. L'homme se retourne contre une religion trop extérieure et réclame des rapports plus personnels et plus intimes avec Dieu. Donc, je vais parler maintenant des trois aspects très vite, très rapidement, qui peuvent donner un peu le contexte qui a permis cette propagation des courants et des quêtes d'intériorité. Puisque Espagne, au milieu de cette situation en Europe, vit son moment glorieux d'hégémonie et de puissance politique. Et il faut tout d'abord signaler sa situation géopolitique, certains événements ayant élargi l'horizon national. Tout d'abord, c'est la fin de la Reconquête qui a duré 8 siècles. Et il faut penser qu'Espagne a été occupée par le monde arabe pendant 8 siècles et en combat permanent. Donc on arrive au point final avec la prise de Grenade. Ensuite, la découverte de l'Amérique, comme j'ai déjà dit, et les victoires aussi militaires en Italie, ce qui permet de répandre et d'avoir plus d'extension. Et par ailleurs, des personnages éminents du paysage politique marquent cette époque, tels que le roi catholique qui parvint à l'unification espagnole, Isabelle, règne de Castille et Ferdinand, roi d'Aragon, le cardinal Cisneros, Charles le Grand d'Allemagne, premier d'Espagne, et son fils et successeur sur le trône, Philippe II. Nous y sommes devant l'Espagne des conquérants, à l'œuvre dans toute son splendeur, qui, conduite par ses personnalités vigoureuses, préservera son spécificité en face d'une Europe où le luthéranisme et le calvinisme se répandent. Donc en Espagne, pourtant, au lieu du luthéranisme et du calvinisme, les désirs de réforme s'orientent plutôt vers l'assimilation de la doctrine d'Erasme, la recherche du recueillement et l'influence des mouvements proches à l'illuminisme. Les spiritualités, jusqu'à ce moment-là presque exclusivement réservées au monde ecclésiastique, commencent à intéresser les laïcs. Et il faut aussi souligner l'importance d'une minorité de conversos issus du judaïsme qui vont avoir une influence notable dans la société. Ensuite, il faut parler du développement de l'imprimerie. Ce développement considérable va permettre aux gens de commun qui ont reçu de l'instruction et savent d'en lire, comme Thérèse, d'accéder aux ouvrages jusque-là réservés presque exclusivement aux universitaires et aux clergés. De nombreux écrits vont être publiés, non seulement en latin, mais aussi dans la langue vulgaire. Donc ils vont être accessibles aux plupart des personnes un peu instruites. Et en troisième lieu, il faut précisément parler de ces consolidations de la langue vulgaire. La langue castillane se fixe de manière toujours plus complète. Son vocabulaire s'enrichit afin d'exprimer plus précisément et avec des plus riches nuances l'expérience intime de l'être humain. Et donc la langue va permettre cette diffusion de la quête d'intériorité. Donc après ces survols, et je veux parler très vite aussi, très rapidement, mais des trois étapes et de ce 16e siècle pour voir comment ces mouvements, ces courants, ils ont été ou soutenus ou persécutés, ou plus encouragés ou moins par les problèmes politiques, par les contextes sociaux. Donc tout d'abord, il faut parler du période qui va du début du siècle jusqu'à l'ouverture, les premières sessions du Concile des Trente en 1545. Donc Charles Ier d'Espagne et Khan d'Allemagne arrivent au trône, et donc c'est le moment d'expansion du territoire en Espagne, et donc les spiritualités jouissent de grandes libertés. Ils jaillissent beaucoup d'expériences variées. Ils ont publié de nombreuses œuvres, comme celle de Jean Climac, Saint-Vincent Ferrier, Saint-Jérôme, que Thérèse lira, comme elle nous dit, dans son livre de la vie, en chapitre 3, Sainte-Catherine de Sienne ou L'imitation du Christ. Il y commence aussi la diffusion de la pensée d'Erasme dans un pays qui a été déjà préparé par la réforme de Cisneros. Et il y a aussi des petits groupuscules des illuminés qui font une réception erronée de ces mouvements de rénovation et qui seront censurés en 1525. Et ensuite, le tournant des années 50, où Charles le Grand, il est à la fin de son règne, il est malade, et il va abdiquer au profit de son fils Philippe II. Donc c'est un moment d'instabilité politique. Mais et même si l'illuminisme reste condamné et l'érasmisme perd un peu de sa force, en même temps, il y a beaucoup d'auteurs comme Louis de Grenade qui vont développer tout un enseignement par rapport à l'intériorité, à l'importance de l'affectivité de l'union avec Dieu. Et même si dans ces moments, ils ne sont pas condamnés, ils le seront plus tard. Donc c'est encore un moment de transition. Il y en arrive aux années 59, où il y a la promulgation de l'index par Ferdinand Valdés, un inquisiteur, qui a promulgué un décret où on demande de brûler tous les livres en langue vulgaire, donc c'est éviter que les gens simples puissent accéder, en fait, pour éviter des erreurs qui étaient en train de se développer au sud, en Andalousie et en Castille. Et donc cet index va, vous savez, Thérèse, elle a dû brûler et beaucoup de ses livres auxquels elle était attachée, qui l'avaient beaucoup aidé, entre autres, le troisième abécédaire de François de Souna, que nous aurons l'occasion de lire quelques extraits tout à l'heure. Donc, au milieu de ce rigourisme montant, les femmes sont particulièrement visées. Et ce soupçon généralisé affectera aussi à Thérèse, dont elle sera aussi la victime. Ce qui la conduit à toujours chercher les conseils et l'appui des personnes cultivées et instruites. Au milieu, ou en réaction plutôt à ces méfiances, il y a deux courants qui se développent. La dévotion moderne et l'humanisme. L'Espagne du XVIe siècle est donc une société pleine d'effervescence spirituelle. Un désir ardent de spiritualité parcourt tous les pays et enflamme non seulement une élite, mais aussi les simples peuples. Ce désir est le fruit de l'appel universel à la vie intérieure et d'un puissant élan vers la vie mystique. Les grands auteurs spirituels rédigent leurs traités sur la science de l'oraison mentale. Les réformateurs des ordres monastiques inscrivent dans leur programme de vie réformée 2 heures ou 3 d'oraison quotidienne, et les grands directeurs de conscience guident les âmes dans les chemins de l'oraison. Donc, la quête menée par Thérèse s'inscrit dans ces mouvements qui parcourent la péninsule ibérique et elle a comme centre l'oraison. Dès ses débuts dans la vie religieuse, au monastère de l'Incarnation, Thérèse dit être convaincue qu'il n'est pas de plus grand bien sur la terre que l'oraison mentale, vecteur de son œuvre réformatrice. Elle dit ainsi, « Dans la première période de ma maladie et avant de savoir bien me gouverner moi-même, j'avais de très grands désirs de faire du bien aux autres. C'est une tentation très ordinaire chez les commençants. Ici, les résultats en furent heureux. Comme j'aimais tendrement mon père, j'aurais voulu les voir en possession du trésor que j'avais trouvé dans l'oraison. À mes yeux, il n'y en avait pas en cette vie qui lui soit comparable. » La nouveauté de la réforme de Thérèse réside précisément dans la conviction de l'importance et de l'universalité de l'oraison, ce que certains ont appelé une contre-réforme priante. Réforme conçue comme une réunion des priants dans la pauvreté, dans la solitude, le silence et la charité. Mais pour bien comprendre cette réforme, il faut connaître les principales caractéristiques du mouvement général des réformes qui parcourt l'Espagne. C'est ça que nous allons faire maintenant. Donc, en Espagne, la réforme précède celle du Concile des Trente. Elle naît en tant que mouvement propre à l'Église espagnole et suit 2 axes, spirituel et théologique, qui s'incarnent de préférence dans les ordres religieux. Le chef de cette réforme, c'est le cardinal Cisneros, moine franciscain, confesseur de la reine Isabelle et archevêque de Toledo. Il fonda la prestigieuse université d'Alcalá de Henares, qui devint rapidement l'une des meilleures d'Europe. Il s'intéressa à l'exégèse biblique et rassembla des précieux manuscrits faisant de sa demeure un véritable centre d'études des Écritures. Il réforma aussi l'enseignement de la théologie et travailla en faveur des missions du Nouveau Monde. La réforme de Cisneros débute l'année de la naissance de Thérèse d'Ávila et s'étend sur toute la première moitié de la vie de la Sainte. Fruit de cette réforme sont les grands mouvements rénovateurs tels que ceux de Saint Jean d'Ávila et Saint Ignace de Loyola, ou les réformes bénédictines, dominicanes et franciscaines qui précèdent la réforme entreprise par Thérèse. L'influence la plus importante sur la vie de Thérèse et sa doctrine est sans doute celle exercée par tous ces mouvements. Je vous fais grâce de tous les noms des personnes que vous connaissez sûrement, qui l'ont influencé, des dominicains, jésuites, franciscains, on peut dire Jean de la Croix, Osuna, Vincent Baron, mais des confesseurs, et François de Borja, de Borgia, jésuite, qui l'ont toujours encouragé dans ses voies et de l'oraison et de la prière. Mais parallèlement à ces mouvements rénovateurs ou des retours aux règles primitives, se développe un grand mouvement spirituel. Il s'agit d'un passage d'une spiritualité de conception médiévale reposant sur la prière vocale et les œuvres extérieures à une spiritualité intérieure, personnelle, affective, construite sur l'expérience personnelle. Ce renouveau idéologique, spirituel et réformiste cristallise en Espagne un des différents courants spirituels. Et le père Tomás Álvarez, spécialiste de Thérèse, estime que cette convergence et cet entrelac des courants, des influences et des tendances dans les triples domaines idéologiques, spirituels et réformistes offrent un spectacle plutôt rare dans l'histoire de la spiritualité et de la culture. Parmi tous ces courants, on peut identifier trois qui ont sûrement le plus influencé Santa Thérèse. Nous allons décrire ici quelques éléments de leur conception de l'oraison et de la vie mystique. Il s'agit de la dévotion moderne, les courants italiens représentés par Savonarole et l'érasmisme. Et nous évoquerons aussi les Illuminés, ces groupes hétérodoxes fruits d'une réception erronée de cet esprit de réforme générale. Donc commençons tout d'abord pour nous intéresser à la dévotion moderne, qui se caractérise par un élan vers l'intériorité, favorisé par l'humanisme de la Renaissance, qui invite l'homme en quête de Dieu au retour sur soi-même. C'est l'effet pour lui de rentrer au fond de soi, de son âme, et d'un christianisme qui cherche la transformation de l'âme en Dieu. Cette voie cherche l'union avec Dieu, et il écrit, il rédige, il réfléchit sur des voies concrètes pour y parvenir. Ce discours est hérité de la pensée humaniste de Nicolas de Cué, de Pic de la Mirandole et d'autres. Cette pensée exalte la dignité de l'homme comme être libre, capable par son entendement, sa mémoire et sa volonté de s'unir à Dieu. Et d'autre part, ce mouvement est aussi influencé par les grands maîtres nordiques du Moyen-Âge qui commencent à être traduits et en Espagne à être publiés comme Hildegard, Gertrude de Hefta, et Maître Eckhart, Toller, Denis Le Chartreux et autres. À l'intérieur de cette évolution de la conception de la spiritualité, les auteurs espagnols développent une pensée propre qui insiste sur une connaissance par amour plus que par entendement. Ils insistent aussi sur la pureté du cœur, itinéraire qui implique la purification pour l'union avec Dieu, et des termes comme « nada » apparaissent. Et ils placent aussi les quotidiens au cœur de l'expérience spirituelle la plus haute. Ils présentent des voies et des chemins et des itinéraires. Je vais citer quelques titres qu'on verra qui sont proches de ce qu'après Thérèse ou Jean de la Croix, ils ont pu écrire. Par exemple, « Art pour servir Dieu » d'Alphonse de Madrid. Le troisième abécédaire de François de Osuna qui a lu Thérèse, que Thérèse a lu. « Le monde calvaire ». Le chemin de perfection et spirituelle de l'âme qui est un anonyme franciscain. La montée du mont Sion de Bernardin de Laredo, dont nous aurons aussi l'occasion de lire un extrait tout à l'heure. Et Odifilia de Jean de Avila. Je vais dire un mot sur le troisième abécédaire spirituel de François de Osuna, qui est le premier traité de l'école mystique espagnole et l'expression la plus achevée de la voie de recueillement. Ces livres synthétisent les courants spirituels précédents en leur donnant une forme didactique et s'en franchissant d'un intellectualisme étroit, ils réhabilitent l'affectivité. Ils insistent sur les dépouillements préalables à la vie contemplative. Ne pensez à rien. Pour mieux se centrer en Dieu. Il enseigne pour la première fois une technique, des moyens et des méthodes à suivre pour progresser sur le chemin de la contemplation de l'union avec Dieu. La lecture de ces livres qui a marqué Thérèse, elle-même nous dit l'importance de ce livre dans sa vie, quand son oncle Pedro Sánchez, qui vivait à Ortigosa, lui offrit cet ouvrage en 1538, alors qu'elle était gravement malade et condamnée par les médecins de Ávila. Elle raconte ainsi cet épisode. Cet oncle, dont la demeure, comme je l'ai dit, se trouvait sur mon chemin, m'avait fait pressant à mon passage d'un livre intitulé « Le troisième abécédaire ». C'est un traité de l'oraison des recueillements. J'avais lu pendant cette première année plusieurs bons livres, car je ne voulais plus en lire d'un autre genre, comprenant trop les mal qu'il m'avait fait. Et pourtant, je ne savais pas encore comment m'y prendre pour faire oraison et me recueillir. Ce livre me fit donc grand plaisir et j'aimerais celui à suivre de toutes mes forces la voie qu'il m'y ouvrait. Comme j'avais déjà reçu de Dieu les dons des larmes et que j'aimais la lecture, je commençais à prendre des temps de solitude, à me confesser souvent, à m'engager enfin dans les chemins où mon livre me servait de guide. Comme je dis, c'est un livre qu'elle a été obligée de brûler avec d'autres livres importants. Bon, avec ces textes, il faut aussi parler des traités sur la vie contemplative qui tracent une sorte d'itinéraire pour y arriver au sommet de l'union avec Dieu. Marcel Bataillon, grand spécialiste français et de cette époque de l'Espagne, et qui a écrit un livre célèbre, Erasme et l'Espagne, qualifie que les livres d'oraison et méditation de Luis de Granada est le plus important manuel d'oraison que produisit l'Espagne alors. Bon, il y a d'autres publications de cet style, mais bon, sont nombreuses, je ne vais pas citer tout. Donc la dévotion moderne implante en Espagne à partir de 1490 une méthode d'oraison mentale qui s'inscrit officiellement dans la vie monastique. Son auteur, c'est le cousin du cardinal Cisneros, c'est un autre Cisneros, qui est abbé bénédictin du monastère de Montserrat. Il va rédiger l'Exercitatorio de la vie spirituelle qui présente le grand thème de la mystique espagnole, le primat de la connaissance, par et dans l'amour, sur la connaissance intellectuelle et spéculative, et le christocentrisme. Sa réforme, à la suite de son oncle, introduit dans la vie monastique deux heures quotidiennes d'oraison, telles qu'elles sont appliquées dans l'ordre bénédictin, et la plupart des ordres jésuites, dominicains, franciscains, adoptent la nouvelle spiritualité intégrant deux heures d'oraison, ou parfois trois, comme Saint-Pierre d'Alcantara. Bon, passons maintenant aux Illuminés, qui sont ces groupes et des gens hétérodoxes qui font une réception de la réforme des Cisneros et de ces mouvements de dévotion moderne, et avec des exagérations plus ou moins graves. Donc, ils ont été condamnés par l'Inquisition à partir du 1525. Mais Thérèse, vous savez qu'il a été aussi, il a été affecté de toutes ces personnes parce qu'on pouvait l'assimiler à certaines femmes au ciel illuminées ou condamnées. Il faut penser que ces mouvements surgissent dans un contexte de crise politique, économique et sociale très profonde. Et l'origine de ces mouvements, c'est incertaine. Les spécialistes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et c'est un contexte d'angoisse où on sent à venir les fins d'une époque. Les Illuminés rejettent la vie monastique, le rôle majeur des œuvres dans les saluts, ils nient l'existence de l'enfer. Ils sont partisans de la libre interprétation de l'Écriture, ils méprisent les sacrements et toute forme de culte extérieur, considérés comme des chaînes, arrivent même parfois à nier la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, qu'ils n'adorent pas. Ils se passionnent pour les phénomènes extraordinaires, extase, vision, rapte, considérés comme signes tangibles de sainteté. Leur centre d'intérêt est pourtant porté sur l'oraison comme moyen pour l'union avec Dieu. Mais on distingue l'orthodoxie de l'hétérodoxie par l'exagération accordée aux manifestations mystiques extérieures et par des interprétations théologiques erronées et même hérétiques. On peut souligner quelques-unes de ces affirmations. L'oraison est une fin en soi. Elle exonère les chrétiens des œuvres de pénitence, de l'accès et de la pratique des vertus. Deuxième affirmation, les actes intérieurs et extérieurs sont inutiles, même celui de porter son attention sur l'humanité du Christ. Troisième affirmation, l'Esprit Saint, dont il faut suivre les inspirations, donne l'interprétation et l'intelligence des Écritures sans médiation aucune, non plus du magistère. Quatrième, la recherche de l'union de l'âme à Dieu est immédiate et n'a pas besoin de l'intermédiaire ecclésial. Il procède par l'abandon à l'amour de Dieu. Mais ils sont nombreux qui sont issus de milliers de conversos du judaïsme, ce qui explique les mépris aux rites extérieurs comme en réaction aux pratiques multiples des juifs espagnols du XIVe et XVe siècle. Donc, relevons maintenant la figure de Jérôme de Savonarole, pas trop connu en général, Erasme au plus, mais lui très peu, mais dont son influence parvient jusqu'en Espagne est important parce qu'il y a eu des dominicains qui sont vus influencés par ces courants et certains confesseurs de Santa Thérèse provenaient de ces courants. Donc ces frères dominicains, prédicateurs itinérants, poètes, artistes, apologètes et réformateurs italiens, institua et dirigea la dictature théocratique de Florence, laquelle fut très controversée. Le pape Alexandre VI l'excommunie et en 1498, le pape l'accuse des récits, des prophétismes, des séditions et d'erreurs religieuses et il finira par être condamné comme hérétique et brûlé au bûcher avec deux autres frères dominicains. Nous ignorons si Thérèse eut accès au livre de cet auteur, mais son influence s'est fait clairement sentir dans la réforme des dominicains en Espagne, notamment en Castille, où elle fut incarnée par deux personnages célèbres, Jean Hurtado et une religieuse stigmatisée, Marie de Saint-Dominique, née en 1488 et morte en 1524, qui a été parfois assimilée à Thérèse, en fait. Donc on a fait des rapprochements. Thérèse nous parle d'un de ses confesseurs qui est disciple de Jean Hurtado. Il avait à cet endroit, à Bécédas, un ecclésiastique d'une essence et d'un esprit distingué, d'une certaine instruction, mais sans excès. Je l'ai choisi pour confesseur, car j'ai toujours aimé les gens instruits. Et cependant, des confesseurs d'un médiocre savoir m'ont fait bien du tort. La raison en est que je n'en trouve pas d'aussi instruit que je l'aurais voulu. Ce fut un père dominicain, théologien et d'un grand savoir. Le père Vincent Baron, qui me détrompa enfin sur certains points. Il me faisait communier de 15 en 15 jours. Peu à peu, je m'ouvris à lui et lui parlais de mon oraison. Il me dit de ne pas l'abandonner parce qu'elle ne pouvait m'être que très profitable. Je la repris donc pour ne plus la quitter. Il nous faut pour finir évoquer l'érasmisme. Les spécialistes divergent sur la nature des manifestations en Espagne en lien avec le protestantisme. Donc je vous fais aussi grâce de ça parce que bon, Marcel Bataillon est de l'avis que tous les érasmismes ont été assumés ou assimilés par le protestantisme en Espagne. Donc on a condamné beaucoup de personnes qui étaient en fait érasmistes et pas protestantes, et de manière injuste, qui n'étaient pas si erronées sur certains points doctrinaux. Et d'autres spécialistes, ils disent le contraire. Mais bon, est-ce qu'on peut dire, ces quelques traits de ces mouvements, que c'est les plus largement répandus, et c'est de l'antériorité et de l'oraison mentale. Celle-ci a été soutenue par le livre d'Erasme, les Enchiridion Militis Christiani, dont on lira, je crois que c'est ça, ou de Modus Orandi, et de la Precatio Dominica. Le succès a encouragé une plus grande recherche de l'antériorité et du recueillement. Erasme insiste sur la nécessité de réformer l'Église et la religion en l'allégeant de ses aspects exagérément dogmatiques et formalistes, pour retourner à l'Évangile d'un christianisme personnel. Il s'oppose à Luther en réaffirmant le libre arbitre de l'homme et la nécessité de soutenir l'unité du monde chrétien. Sa méthode consiste en un retour aux sources de l'Écriture sainte, de l'Évangile et de saint Paul, et à l'antériorité. Cette méthode d'Erasme n'est pas complètement nouvelle en Espagne. Le cardinal Cisneros, comme je viens de dire, avait doté déjà l'université d'Alcalá des chaires de langues anciennes et avait publié la Bible polyglotte. Et quant à l'antériorité, elle était au cœur des mouvements spirituels contemporains, comme on l'a vu. Mais la particularité d'Erasme est d'intensifier ces deux aspects en les développant. D'autre part, il fait aussi des affirmations et qui s'opposent à la doctrine catholique. La recherche d'antériorité conduit Erasme à refuser toute marque extérieure de religiosité, cérémonies, rites, processions, indulgences, images, habits et même la vie religieuse. L'homme intérieur doit dépasser pour lui l'homme extérieur. L'esprit doit dépasser la chair. Le spirituel doit dépasser le temporel. L'essentiel pour les chrétiens est sa profession baptismale, source de la véritable piété. Et Erasme ajoute à l'oraison mentale la science, l'éducation mentale, la paix intérieure considérée comme équilibre de l'esprit et sommet de la piété. Ce ne sont pas des erreurs, en principe. Nous ne disposons d'aucune preuve permettant d'affirmer que Thérèse a lu les œuvres d'Erasme, nous dit le père Thomas Alvarez, même si d'autres affirment que Thérèse a sans doute connu les Enchiridion. Mais il existe des coïncidences troublantes et par ailleurs dans ses écrits, Santa Thérèse réfute fermement des thèses erronées de l'érasmisme. Par exemple, celle concernant les mépris des vœux et de la vie religieuse, Erasme dira, et Thérèse dira, que deviendrait le monde sans les religieux, dans le livre de la vie 32.11. De même concernant les dédains érasmiens des rites et des cérémonies, Thérèse affirme. Je savais très bien que si l'on m'avait dit que je manquais à la moindre cérémonie de l'Église, j'aurais affronté 1000 morts pour m'y conformer, aussi bien que pour une vérité quelconque de la Sainte Écriture. Par ailleurs, devant les mépris manifestés par Erasme envers les représentations et manifestations populaires, la valeur que Thérèse accorde aux images et aux processions, parfois intimement liées à ses expériences mystiques, est connue. Dans sa vie, elle rapporte « Mon inhabilité à me représenter les objets à l'aide de l'entendement allait même si loin qu'il m'était tout à fait impossible de me figurer ce que je n'avais pas sous les yeux. Bien différente en cela de ces personnes qui peuvent se former certaines représentations qui les aident à se recueillir. Tout ce qui était à mon pouvoir, c'était de penser à Jésus-Christ comme homme, mais j'avais beau lire quelque chose de sa beauté ou voir ses images, je ne parvenais pas à me les représenter. Figurez-vous, une personne aveugle ou plongée dans les ténèbres, elle parle à quelqu'un, et parce qu'elle est assurée de sa présence, elle voit qu'elle est en sa compagnie. Je veux dire que sans la percevoir, elle sent, elle croit qu'il est là. Ainsi en est-il de moi quand je pensais à notre Seigneur. C'est pour cela que je m'étends les images. Un autre désaccord important porte sur la conception de la loi et de la liberté. Erasme la conçoit comme libération de la chair, c'est-à-dire des lois culturelles et morales, liturgiques, théologiques. Et Santa Thérèse insiste sur l'unité entre la réponse libre à Dieu et les exigences de l'homme. C'est l'oraison comme au chemin des connaissances de Dieu et de soi qui aboutit à la vérité sur l'homme. La vraie liberté rend l'homme maître de lui-même et de ses choix. Et enfin, l'aversion manifestée par l'érasmisme pour la contemplation de l'humanité du Christ est considérée comme funeste par Santa Thérèse, pour qu'il n'y a pas d'autre porte que l'humanité du Christ. Je lis, « Il vous semblera aussi que des âmes qui routent des jouissances si élevées ne doivent plus méditer sur les mystères de la très sainte humanité de notre Seigneur, et qu'elles ne s'occupent que d'aimer. Ce sont réellement des voies par lesquelles notre Seigneur conduit les âmes. Qu'une fois les débuts franchis, il vaut mieux ne s'occuper que de la divinité et bannir tout ce qui est corporel. Eh bien, malgré tout, on ne me fera pas avouer que ce chemin soit bon. Pour ma part, je reconnus que les démons voulaient m'égarer par cette voie. Et c'est précisément parce que je me suis instruite à mes dépens que j'ai résolu de répéter ici ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Mon dessein est de vous mettre sur ces points extrêmement en garde. Voyez, j'ose même vous dire de ne pas croire ce qui vous parlerait différemment. Outre ces considérations, nous savons qu'elle a été en contact avec quelques-uns des principaux acteurs de l'érasmisme espagnol, comme Diego Gracián, bon intellectuel humaniste et secrétaire de Philippe II, et son fils, le futur père Gracián. Bon, arrivons à la fin, donc un mot de conclusion. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce parcours très rapide? Donc nous voyons que la quête d'intériorité menée par Thérèse s'inscrit au sein d'une quête plus large. Quête à l'intérieur des frontières de l'Église et en dehors d'elle. Thérèse a profité, comme on voit, des influences variées et elle s'en est aussi détachée par son génie propre. En elle, nous trouvons la confirmation qu'un grand maître ne surgit isolément dans l'horizon ecclésial, mais qu'il est le fruit de la tradition et qu'il s'inscrit dans une toile tissée par l'Esprit-Saint qui guide l'Église pour qu'elle transmette toujours mieux et toujours fidèlement le Christ aux hommes. C'est celui qui révèle pleinement l'homme à lui-même, comme dit le Concile Vatican II. Et un autre aspect que je pense qu'on voit dans ce parcours, c'est aussi que Thérèse est maître pour nous aujourd'hui, avec les questions dont on va parler cet après-midi, parce qu'elle a été aussi maître pour son temps. Donc ça veut dire que c'est parce qu'elle a vécu dans un moment historique bien concret qui a répondu aux questions de son temps, qu'il a fait sien les soifs et les questions de ses contemporains, qu'elle peut être capable de nous introduire aujourd'hui et dans notre propre voie nous aider, nous encourager dans notre propre recherche d'intériorité.
Un très très grand merci Isabelle pour... Ainsi de nous avoir donné ce point de vue si synthétique et si riche et si clair aussi sur ce contexte à la fois événementiel mais surtout intellectuel et spirituel de la vie et du message de Sainte Thérèse. Alors pour tous ceux qui voudront reprendre ça à tête reposée, je pense que beaucoup de choses que tu nous as dit se trouvent dans le livre. Enfin libre, le livre sur Thérèse, que le Studium, avec différents professeurs du Studium, dont Isabelle vient de publier. Est-ce que ça vous va si je vous donne dès maintenant, en 2 minutes, les orientations pour les ateliers, et comme ça, à peu près pour 11h moins le quart, vous pouvez aller directement dans les lieux d'atelier. Alors, on a évoqué plusieurs noms déjà. Et donc, on vous a déjà distribué les feuilles, donc c'est pour ça aussi que je me dis que ça sera plus simple de faire comme ça. Donc, prenons appui sur le cadre qui a été si bien brossé à l'instant. On vous propose de prendre contact avec les textes, parce que on a tous entendu parler notamment du troisième abécédaire, mais si on demandait parmi vous qui a où. Peut-être pas lu, même pas intégralement, mais au moins ouvert le livre, il y en a sans doute pas beaucoup d'entre nous. Donc, on a pensé que ça serait intéressant. Alors, Aussi, pareil pour Érasme. Tout le monde a entendu parler d'Érasme, mais qui a vraiment lu des textes d'Érasme? Peu d'entre nous. Donc ça peut être intéressant de prendre contact avec ces textes. Donc le but de cet atelier est d'abord informatif. Voilà, c'est aussi de lire un peu ces auteurs, de les travailler. Le deuxième but, à partir de la richesse, de la grande diversité, c'est vraiment une grande joie que nous soyons tous rassemblés pour ces deux jours autour de Sainte Thérèse, avec une grande diversité d'expériences, de connaissances aussi de Sainte Thérèse et de son univers, les uns les autres, avec du plus et du moins, et du coup de richesse aussi d'expériences diverses les uns et les unes d'entre nous, aussi sur la question de l'intériorité à travers notre expérience personnelle et puis nos relations avec les personnes que nous rencontrons dans le monde d'aujourd'hui. Donc le deuxième volet, après avoir lu les textes, c'est d'essayer de les approfondir dans les petits groupes où nous serons autour de la question, qu'est-ce qu'ils nous disent de la question de l'intériorité. Alors pour ça, on a prévu à chaque fois quelques petites questions qui sont dans les encadrés, qui vous aideront à approfondir les textes. Bien sûr, dans ces textes, surtout le texte de Pic de la Mirandole, mais aussi les textes de Osuna et Laredo, quelquefois il y a des expressions un peu obscures ou compliquées. Bon, ce n'est pas très très grave si on ne comprend pas tout dans le détail, ça n'a pas tellement d'importance en un sens. L'essentiel, c'est de voir ce qu'ils peuvent nous dire. Alors, il n'y a pas de retour prévu, mise en commun des ateliers. Le but des ateliers, c'est d'étudier, puisque c'est des journées d'études, donc d'étudier et de s'entraider en petits groupes à étudier. Alors, on a choisi deux textes d'humanistes et deux textes de spirituels espagnols du XVIe. Alors, les humanistes, je n'ai pas choisi Savonarole. Jean-Pic de la Mirandole était quasiment son contemporain. Il a eu une fin moins tragique que le pauvre Savonarole. Et il est tout aussi intéressant. Donc, c'est vraiment un philosophe et un grand humaniste qui, vous le verrez, fait appel à des multiples références juives, musulmanes, hermétiques, enfin, zoroastriennes, enfin, vraiment comme les humanistes, il connaissait énormément de choses. Et à travers toutes ces références, c'est pas ça qui est le plus important, c'est de voir qu'est-ce qu'il nous dit de l'homme. Je pense qu'à travers ce texte de Savonarole, pour ceux d'entre vous qui le liront en groupe, on peut percevoir la continuité, mais surtout la discontinuité entre le Moyen-Âge et ce temps nouveau qui s'inaugure à la fin du XVe siècle et dans lequel nous nous trouvons encore, on peut le dire, comme ça a été bien dit tout à l'heure. Ensuite, on pourra réfléchir sur l'impact de cette vision nouvelle dans la vie de l'Église à travers les deux petits textes d'Érasme, donc le manuel du chrétien, l'Enchiridion, que peut-être Thérèse a connu, au moins une partie de ce livre, et puis la préface à la traduction du Nouveau Testament, qui est vraiment un texte fondamental et fondateur pour Érasme, mais surtout c'est un des textes qui a eu le plus d'impact dans l'Église. Donc de voir comment cet humanisme a retenti dans la vie des chrétiens, dans la vie de l'Église, à travers une conception nouvelle et plus élargie, comme Isabelle l'a très bien dit, à tous les fidèles, à tous les laïcs, l'accès à la vie spirituelle, et non plus seulement aux moines et aux théologiens universitaires. Et puis donc, ensuite, il y a deux textes d'auteurs spirituels qui sont de tradition franciscaine, qui a eu un grand impact sur tous les mystiques du XVIe, et notamment sur Thérèse. Donc d'abord, le fameux troisième abécédaire. Donc abécédaire, c'était parce que le livre était structuré sur des sentences. Chaque traité s'ouvrait par une sentence qui était classée par ordre alphabétique, d'où le terme abécédaire. Et puis vous avez là deux extraits, et puis un extrait de la montée du Mont Sion de Laredo. Et là, peut-être ça nous invite à réfléchir justement qu'est-ce que ces auteurs nous disent de l'intériorité de la vie spirituelle et même de la vie mystique dans sa dimension la plus personnelle, avec à la fois des ressemblances et des dissemblances avec ce que dit Thérèse. Elles apparaîtront assez facilement, je pense. Voilà.